Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tamboule, le premier pour l'année 2019. On est très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, Adèle Comellas pour la salle de spectacle.
Et bonjour.
Bonjour Adèle. Et moi-même, Leslie Bertrand pour la médiathèque. Bienvenue dans Tamboule, la culture à la sauce du pays de Conches.
The menu, please.
Alors, au menu aujourd'hui, il est varié et consistant. Nous recevons Anne-Sophie Dallet, qui est responsable ressources numériques à la bibliothèque départementale. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour.
Nous recevons Richard Froment, qui est médiateur numérique à l'espace Mélisseau de Conches. Bonjour Richard.
Bonjour.
Et puis, nous recevons également Lise Verdi, qui est cadre de santé à l'EHPAD de Conches.
Bonjour à tous.
Alors, une émission très spéciale sur le numérique.
Donc, on commence du coup tout de suite avec, on va commencer avec Anne-Sophie, donc, responsable des ressources numériques à la médiathèque départementale, qui va en fait nous parler un petit peu du projet 2019 qui est mené par le département et qui va pas tarder à commencer, qui commence à la fin de la semaine et qui s'appelle Expo. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors, tout à fait. Expo est née de la volonté du département de porter le numérique sur le territoire à travers son réseau de bibliothèques. Un plan départemental de lecture publique a donc été voté dans ce sens, avec comme action principale un événement autour du numérique donc, qui s'appelle Expo, qui sera donc du 1er au 10 février 2019.
Donc c'est bientôt, il va vraiment falloir que tout le monde se renseigne sur les agendas et prenne les rendez-vous.
Tout à fait. On veut vraiment souligner par cette action-là le rôle des médiathèques dans le développement du numérique contre l'électronisme au service de l'information, de la formation, etc. Donc il y a 30 bibliothèques du département qui se sont inscrites dans ce projet-là et qui ont programmé 90 animations sur la dizaine de jours. Donc c'est déjà un bon succès en soi.
Rien qu'au niveau organisation.
Tout à fait. Donc voilà, plein d'animations. Dans les premières qui vont avoir lieu, une qui aura lieu à Conches.
Ouais, on en a même plusieurs voilà, du coup qui auront lieu à la bibliothèque, à la médiathèque, pardon.
Ouais. Donc vendredi prochain, donc avec un Ripper Café numérique. On a un animateur de la médiathèque départementale, Jean-Christophe, qui va venir intervenir pour proposer des petites réparations, des diagnostics sur l'utilisation de smartphones, de tablettes, des réparations d'ordinateurs. Voilà, si votre support fonctionne mal ou vous ne savez pas trop comment l'utiliser, Jean-Christophe sera là et pourra vous aider.
S'il y a un bug quelque part, ou alors si vous avez un logiciel que vous ne savez pas comment installer, ou vraiment une demande quelconque, il ne faudra pas hésiter à passer l'après-midi à la médiathèque, il sera à votre disposition. C'est vraiment emprunter un informaticien, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Dans les animations aussi qu'on peut mettre en avant, une journée professionnelle, donc là pour les bibliothécaires, mais avec des petites choses qui seront aussi à disposition du public, de tous les visiteurs de l'hôtel du département. Donc on aura le Livre in Room qui sera disponible du 31 janvier, donc là à partir de jeudi. De jeudi jusqu'à la fin de l'événement. Donc c'est une installation numérique littéraire qui va proposer une expérience numérique autour de la littérature. Vous allez scanner un livre dans cette sorte de photomaton, on va dire, et vous allez avoir un hologramme ou voilà, une lecture augmentée via le numérique. Donc ça va être quelque chose de très sympathique.
Donc voilà, donc là, on refait la passerelle entre le cœur de métier, le livre et le numérique.
Tout à fait.
Parce que du coup, les bibliothèques, ce ne sont pas que des livres. Déjà, on trouve d'autres sources, on trouve des DVD, de la musique, de la presse, et maintenant, effectivement...
Les ressources numériques.
Les ressources numériques qui sont très, très nombreuses, et du coup, les bibliothèques se positionnent effectivement pour travailler dessus, et le font déjà depuis le départ, en fait.
Tout à fait. Alors nous, on a commencé vraiment en 2012 hein, à promouvoir le numérique sur le département, dans le réseau des bibliothèques. Nous avons proposé aux bibliothèques d'emprunter des consoles de jeux, des tablettes... aussi des liseuses chargées de livres numériques, voilà, plein de choses, mais aussi d'autres outils innovants, type des Meki-Meki, voilà, des petits dispositifs pour pouvoir interagir entre des objets du quotidien et puis des ordinateurs, mais aussi un gros projet autour de la médiathèque numérique, qui est une plateforme de ressources numériques en ligne qui propose à tous les usagers 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, des films, de la musique, des livres, de l'auto-formation, code de la route, un cours de langue, tout ça en ligne, gratuitement.
Ouais, il y a énormément de choses. Si jamais ça vous intéresse, on le dit parce que c'est jamais assez, assez valorisé, mais si jamais vous êtes intéressé et que vous fréquentez une bibliothèque, n'hésitez pas à demander à vos bibliothécaires de vous informer là-dessus, de vous faire un compte et après à pouvoir aller le consulter, quoi.
Tout à fait. On a 40 bibliothèques partenaires pour le moment et ça tend à augmenter tous les ans. Donc voilà.
Parce que c'est vrai que ça permet d'être une prolongation de la médiathèque en étant à la maison, en étant accessible 24 sur 24, voilà, 7 jours sur 7.
C'est une offre légale complètement gratuite ouais, pour tous les usagers. Ça, c'est important de le souligner.
On s'en doutait.
Bien sûr.
L'objectif de cette semaine, c'est de l'initiation, c'est de montrer que le numérique est accessible, qu'il est disponible pour tous.
C'est ça.
Quelle est la démarche derrière cette semaine un peu événementielle, parce que c'est très, très varié au niveau des animations.
Tout à fait. Alors là, c'est vraiment une première édition. Donc, on est vraiment parti sur quelque chose, sur une découverte du numérique, dépoussiérer aussi l'image des bibliothèques. On a souvent accroché à nous une image un peu vieillotte, voilà, de la bibliothécaire assise derrière son bureau et voilà. Mais c'est pas ça, les bibliothèques maintenant, c'est quelque chose de très ouvert où on peut parler de beaucoup de choses, échanger, partager, et le numérique est un bon outil pour ça. Donc voilà, donc vraiment de la découverte, de l'initiation.
C'est un lieu de vie, en fait. C'est de faire de ces médiathèques maintenant des lieux de vie, c'est ça, plutôt que de rester sur une borne d'emprunt, en fait.
Tout à fait.
Voilà. Sachant que là, je vais faire la partie très, très sérieuse, mais en fait, le métier se professionnalisant de plus en plus. En fait, les bibliothécaires, théoriquement, sont formés au numérique et aux outils du numérique. Donc, elles peuvent aider. Je dis elles parce que la plupart du temps, c'est des femmes, mais il y a des hommes aussi. Beaucoup, beaucoup, mais il y a des hommes aussi.
Oui, tout à fait.
Oui. Après, Richard.
Il n'est pas en bibliothèque, Richard.
Non, pas tout à fait.
Non, mais il est dans la partie du numérique et puis il y a un contact avec les jeunes. Richard, peut-être il est temps de nous présenter un petit peu cet espace au sein de Mélisso et votre rôle dans cet espace numérique.
Oui, donc moi j'ai en charge donc, l'espace public numérique. Il se peut que j'appelle EPN par la suite, donc vous étonnez pas. La mission première d'un espace public numérique, en fait, c'est de lutter contre la fracture numérique auprès de l'ensemble des citoyens. Donc, à ce titre, il est ouvert à tous les publics. Maintenant, on intervient, nous, sur différents volets. On a d'une part l'inclusion numérique, qui a d'ailleurs tendance à être pas mal oubliée aujourd'hui, puisqu'on part de l'idée que les gens maîtrisent, ce qui est pas forcément vrai. Enfin, nous, c'est les constats qu'on a sur le terrain. Donc cette inclusion, elle se traduit par déjà l'accès à une connexion Internet aux besoins, l'accès à du matériel aussi, puisque tout le monde n'est pas nécessairement équipé. Il y a aussi un aspect ressources, une personne qui a besoin d'un coup de pouce. Alors là, je vous rejoins un petit peu. Une personne a un problème avec un logiciel, une application sur le téléphone, c'est un lieu où elle va pouvoir trouver un coup de main, en l'occurrence de ma part, en tant que médiateur numérique. Et on travaille aussi beaucoup sur l'aide au retour à l'emploi, puisqu'en fait, on accueille également beaucoup de demandeurs d'emploi, notamment pour la création de CV, la création de lettres de motivation, et surtout les télécandidatures, puisque maintenant, de plus en plus, il y a cette notion aussi de télécandidature qui intervient.
Et toutes les démarches en ligne, en fait.
Oui. Et beaucoup, tout ce qu'on appelle l'e-administration.
La dématérialisation,
Exactement, où on a souvent, effectivement, c'est là que j'en reviens à l'inclusion un peu oubliée, des personnes qui sont un petit peu démunies et qui, du coup, ont besoin d'une aide pour pouvoir, d'une part, faire leur démarche, mais d'autre part aussi, nous, notre objectif, c'est de les rendre autonomes sur ces démarches-là. Ce n'est pas de les accompagner pendant 10 ans et faire à leur place, c'est vraiment leur apprendre à faire. Donc, il y a vraiment un aspect quand même de formation, même si c'est plus succinct, puisque... Le volet formation, je vais y venir juste après. Mais je dirais qu'on les accompagne dans le but vers l'autonomie, en fait, et non pas pour les accompagner comme ça pendant X temps. Donc après, on a le volet un peu plus formation. Donc là, on propose des ateliers avec différentes thématiques. Donc on a des thématiques un peu plus l'appropriation des bases, gérer ses documents, envoyer un mail, naviguer sur Internet. Et aussi après des ateliers un peu plus pratico-pratiques, utiliser une enceinte Bluetooth par exemple, mettre une annonce sur le bon coin. Donc là vraiment on a des ateliers un petit peu plus ludiques, on va dire, on peut le dire comme ça. Et ensuite on a aussi d'autres actions de formation avec des partenaires. Là notamment on a mis en place une action avec la MSA. Donc c'est la Mutuelle Sociale Agricole où on a eu un groupe de participants sur une session d'une dizaine de séances environ pour acquérir les bases justement du numérique. Et je dirais que dans le cadre du projet, il y avait même une partie d'un ordinateur portable financé. C'était vraiment un projet d'accompagnement pour ces publics-là. Donc après, en fonction des partenaires, on peut aussi mettre en place des sessions de formation un petit peu plus spécifiques.
Donc là, on est sur un vrai rôle social et un vrai aide numérique social en fait.
Tout à fait, oui.
Oui, mais qui est la partie pédagogique aussi,
qui est nécessaire avant de la partie ludique. Si on peut vous rejoindre tous les deux, c'est effectivement, Richard intervient en amont, de ce que je comprends, pour pouvoir accéder effectivement après à des services qui sont proposés plus sur le domaine culturel.
Tout à fait, mais le rôle des médiathèques est là aussi de plus en plus. On voit arriver dans les médiathèques des personnes qui souhaitent se former à l'utilisation juste d'un ordinateur, d'Internet, d'avoir de l'aide sur les démarches en ligne. Et là, on a vraiment un rôle identique.
Est-ce qu'on a passé ce stade de réticence ? Ou est-ce que vous sentez encore une réticence à vouloir se mettre effectivement sur ces outils, ce qui a été longtemps le cas, et puis qu'on a opposé, alors là, pour le coup, le livre et la liseuse. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution dans ce sens-là où les réticences ont tendance à s'amoindrir, ou est-ce qu'on ressent toujours cette difficulté de se mettre à la page, si on peut dire ?
Ça dépend un petit peu des publics. On a pas mal de seniors notamment qui ont un petit peu de mal, et au contraire d'autres qui vont être complètement convaincus par l'outil. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas.
Ouais, le tout c'est d'y trouver un intérêt entre guillemets personnel du coup. La personne qui trouve un intérêt pour entre guillemets, on va revenir sur les seniors, mais elle se dit bon je vais avoir ma petite fille sur Skype, elle se met à utiliser Skype. Peu importe, elle va voir les différents partenaires qui peuvent l'aiguiller, mais elle le fait.
Mais c'est un petit peu pour ça tout à l'heure que j'insistais sur on les accompagne à l'autonomie, parce que justement, chez les demandeurs d'emploi, il y a plus ce frein-là. Et ils ont tendance dans leur demande à vouloir qu'on fasse à leur place. Et nous, justement, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Déjà parce que c'est très chronophage et à un moment, on ne s'en sortirait plus. Mais c'est aussi parce que ce n'est pas non plus l'objectif des espaces comme l'espace public numérique. Donc c'est pour ça, je pense que quand on disait tout à l'heure, ça dépend des publics, c'est vraiment... Et ça dépend même, je dirais aussi, du territoire. C'est un petit peu ce qu'on parlait tout à l'heure, un peu avant l'antenne. C'est vrai qu'on met un peu une étiquette numérique globale et puis on se dit bon, le numérique. Mais le numérique, à l'intérieur, c'est très diversifié. Et c'est pas que la recherche d'emploi, c'est pas que le loisir, c'est pas que Internet. Il y a tout un écosystème autour de ça. Et je dirais que le numérique, ça reste quand même un nom assez global qui est pas forcément très précis finalement.
Oui, et puis c'est d'autant plus large même dans les missions, parce qu'effectivement, entre l'espace public numérique, par exemple, que peut proposer Méliso et d'autres MJC, et ce que peuvent proposer, par exemple, des médiathèques, effectivement, il y a des points communs, mais au niveau du rôle et au niveau de l'accompagnement, ce sera quand même nettement différent. Je veux dire, entre le temps qui est consacré à un médiateur numérique qui est là exprès pour ça. Et qui a les compétences et les bibliothécaires qui effectivement peuvent faire, peuvent aider, accompagner, mais ce sera dans tous les cas moindre. Ce sera un accompagnement, une découverte, une initiation, mais ça ne remplace pas du coup les cours d'informatique. Sauf si, effectivement, j'allais dire, il n'y a pas de cours d'informatique en bibliothèque. Si, il y a partenariat, effectivement, entre différentes structures et avec le personnel adéquat qui vient le faire.
Il y a de plus en plus de personnel formé dans les médiathèques.
Une petite pause musicale ?
Ouais, on va écouter La Grenade de Clara Luciani.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
Toujours en direct sur l'émission Tambouille et on parle numérique et toutes ces formes et tous ces volets. On va revenir un petit peu peut-être sur la semaine Expo qui est proposée là bientôt. Quel est le public cible de cette semaine ? Est-ce qu'on va vraiment vers les jeunes ? Est-ce qu'on va essayer d'attirer les moins jeunes ? Comment vous avez conçu et si toutefois il y avait vraiment une action définie ?
Alors, c'est vraiment tout public. Par contre, on sait très bien que pour certaines animations, le public principalement ciblé, ça va vraiment être les jeunes. Le tournoi de jeux vidéo, on sait très bien que ce sont les jeunes.
À destination des seniors.
Mais ça peut être une manifestation intergénérationnelle. Ouais. Ça peut être chouette de voir des grands-parents jouer avec leurs petits-enfants. Et ça peut tout à fait être envisageable et vraiment chouette. Hein. Oui, les jeunes, effectivement, sont une cible prioritaire. Ils désertent un petit peu les médiathèques à un certain âge. Donc là, voilà, ce genre de manifestation sur le numérique, le codage, la programmation informatique, ça peut tout à fait les intéresser. On a un partenariat avec la Maison de l'Enfant et des Découvertes d'Évreux. Et ils vont nous proposer toutes sortes d'ateliers, voilà, sur le codage, sur la création de films en stop motion, sur des ateliers Meki-Meki, des cafés débats, des conférences en fait, ayant pour thème le numérique au quotidien, mais aussi les pratiques des jeunes. Donc, par exemple, on en a un, le café débat, qui s'intitule les écrans, Internet et les enfants. Voilà, c'est vraiment une préoccupation du moment.
Donc là,
et
pour le coup, on est sur un public un peu plus âgé, façon de dire, puisqu'on
pour
est les sur les parents.
Débat, oui.
Ouais,
pour les on est sur les parents.
Est-ce que c'est par le numérique que les jeunes font un apprentissage, enfin, ou en tous les cas par le jeu, etc., qui viennent à se servir du numérique, ou pas du tout?
Oui. Le numérique est une porte d'entrée. Le champ d'action est tellement large. On peut aller sur l'apprentissage des mathématiques avec la programmation. On a tout le volet artistique aussi, la création, qui est très important avec le numérique, la musique. Voilà. Enfin,
et on peut aborder énormément de choses, parce que c'est pareil. On pourrait aller sur l'enseignement des échecs, mais à partir d'une application sur tablette. Et donc, on part de quelque chose de physique pour aller sur quelque chose de complètement dématérialisé. Pardon.
Tout à fait. Donc, par ailleurs, on a une animation à la médiathèque de Gaillon sur les jeux de société en vidéoprojection. Donc ça, on est sur du numérique, mais sur du jeu de société classique, sur le partage, voilà.
Le champ des possibles est très, très large.
Tout à fait.
On n'en doute pas une seconde. Richard, au niveau des jeunes, je crois qu'il y a différents ateliers qui sont proposés. Quel est votre ressenti par rapport aux attentes des jeunes et du numérique?
Je dirais que nous, au niveau des jeunes, on est plus dans le loisir également. Donc, en fait, sur certaines actions, on va se croiser puisque on organise effectivement, nous aussi, des tournois autour du jeu vidéo. Ça tourne beaucoup autour du jeu vidéo puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un centre d'intérêt qui est assez important pour les jeunes. Maintenant, c'est vrai que nous, on essaie de leur mettre à disposition un lieu où ils peuvent se retrouver déjà autour de ça. C'est vrai que l'une des problématiques, notamment du jeu vidéo, c'est vrai que quand on parle jeu vidéo, on entend tout de suite parler violence, isolation. Isolement, pardon, c'est mieux. Nous, en fait, le fait de mettre un lieu, du coup, les jeunes, ils peuvent se retrouver autour de ça, jouer ensemble, rester dans le domaine du jeu vidéo. Maintenant, on profite de ces temps-là pour les sensibiliser, notamment sur les jeux vidéo. Il y a ce qu'on appelle le PEGI, en fait, c'est l'âge qui est déterminé pour un jeu. Donc, on les sensibilise là-dessus, que y a certains jeux, c'est pour des 18 ans, et que du coup, quand on a 12 ans, c'est peut-être pas une très bonne idée d'y jouer. Et puis surtout, le fait, je ne m'enferme pas dans ma chambre tout seul devant ma console pour jouer, même si c'est en réseau. Là, j'ai la possibilité de jouer dans ce qu'on appelle un réseau local, c'est-à-dire on est ensemble dans la même pièce et nous, on veut vraiment mettre en avant le plaisir d'être ensemble avant le plaisir de jouer, sans diaboliser non plus le jeu vidéo, puisqu'on ne veut pas rentrer non plus dans ce critère-là. Donc maintenant, c'est vrai qu'au niveau des tournois, on parlait d'Interjet tout à l'heure. Nous, c'est vrai qu'on essaie beaucoup de travailler avec le rétro gaming, donc les anciens jeux d'il y a une vingtaine d'années, de façon justement aussi à amener les parents dans notre structure pour aussi que ça change un petit peu les regards parents-ados et puis qu'ils puissent passer des bons moments ensemble. Puisque c'est vrai que pour les parents, des fois, même souvent, c'est les jeux vidéo de leur jeunesse finalement et pouvoir partager ça avec son enfant, ça peut aussi créer des liens.
Voilà, et là, on se prend un gros, gros coup de vieux.
Les parents étaient jeunes aussi.
Voilà, exactement. Ensuite, après, on a la partie un peu plus créative où là, vraiment, on va utiliser le numérique comme un outil. Pour un projet précis, par exemple, on a participé à plusieurs reprises au Festival du film d'éducation, où là, l'objectif, c'était de créer un court-métrage donc avec les jeunes de 5 minutes sur un thème donné. Donc là, c'est pareil. Alors, on utilise le numérique parce qu'il y a tout cet aspect prise d'image. Mais à côté de ça, il y a tout le travail de création du scénario. Il y a toute cette réflexion aussi derrière sur le thème. Donc, ce n'est pas que du numérique. Finalement, le numérique nous permet d'obtenir le format final de ce qu'on veut. Oui, là, en l'occurrence, c'est la vidéo. Mais il est utilisé vraiment comme un outil. On a aussi d'autres ateliers sur vraiment de la création. On a créé justement une mini console rétro dans le cadre du rétro gaming à partir d'un Raspberry. Mmh. Pour les connaisseurs, ils sauront de quoi je parle. Donc voilà, on a plein aussi d'ateliers à côté créatifs où on utilise vraiment le numérique comme un outil pour atteindre une finalité. Et là, on est clairement dans, puisque l'Espace Mélisseau est une association d'éducation populaire, et on est clairement dans l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres voies pour apprendre le numérique.
Et on est clairement toujours également dans le rôle social et dans le lien social permanent, en fait, et d'échange entre les habitants, les usagers.
Exactement.
La lutte contre l'isolement, parce qu'effectivement, les jeunes qui viennent jouer à l'EPN, ils sont sur le pôle culturel. L'espace public numérique est sur le pôle culturel. Donc, nous, on les voit passer quand c'est les vacances, les jeunes. Et c'est vrai qu'on sent que quand ils attendent que ce soit la réouverture en début d'après-midi, ils sont contents de se retrouver quand c'est les vacances. Ça se voit le début d'après-midi.
Bah, c'est vrai que nous, dans nos constats, on remarque qu'il y a certains jeunes qui sont quand même équipés chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont la connexion Internet, ils ont même des fois des PC meilleurs que les nôtres.
Et c'est plus sympa de venir chez eux.
On a même des jeunes qui viennent avec leur console. Là, notamment à Noël, on a un jeune qui a une Wii. Il est venu avec sa Wii pour la partager avec tout le monde. Donc, c'est vraiment toute cette dimension sociale aussi que nous, on veut développer avec les ados.
Alors là, on parle beaucoup des ados, des parents, etc. Et moi, j'aurais aimé savoir si, du coup, de votre côté, que ce soit à la médiathèque départementale avec justement la manifestation Expo, ou bien Richard avec l'espace public numérique, si vous consacriez des choses aux seniors. Oh la colle.
Alors, pour les seniors, on n'a pas spécialement une animation prévue. Pour eux, vraiment. Mais on a, par exemple, des cours de yoga à la médiathèque de Louviers via la plateforme médiathèque numérique.
D'accord.
Voilà, ça, c'est quelque chose de chouette. On a aussi une initiation à la généalogie en ligne. On sait que ça passionne beaucoup ces personnes. Voilà, ça sera à la médiathèque de Charleval, je regarde mon programme, le samedi 2 février. Voilà.
Okay. Parfait. Mais en même temps, les initiations à certains outils sont aussi des fois axées un petit peu senior même. Donc,
Oui, on peut être senior et s'intéresser à l'impression 3D par exemple.
Ah oui. Richard.
Mais nous, ça va être pareil, on n'a pas forcément d'action vraiment définie. Enfin, on a bien quand même une action en lien avec justement l'EHPAD, avec des jeunes. C'est plus une action inter-G finalement que vraiment spécifique aux seniors. Maintenant, c'est vrai que dans nos ateliers informatiques, c'est vrai que le public qu'on voit le plus souvent, ça reste les seniors. Peut-être déjà pour une question de temps. Et puis aussi parce que les actifs, ils ont peut-être aussi de la formation en interne au niveau professionnel. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup moins d'actifs dans nos ateliers que par rapport aux seniors. En fait, on voit beaucoup plus de seniors. Donc, ce n'est pas spécifiquement pour eux, mais dans les faits, finalement, c'est principalement eux qui participent aux ateliers.
D'accord. On a bien compris que c'était un bel outil. Est-ce que dans la limite, parce que quand j'entends jeu en ligne, quand j'entends on remplace le professeur de sport parce qu'on peut le faire en ligne, quand on entend, voilà, si on va jusqu'au bout du processus, dans quelle mesure, même si on réfléchit effectivement pour jouer en commun et socialiser et tout ça, le numérique à terme risque de vous remplacer?
Le numérique, il est complémentaire, il remplace absolument pas le bibliothécaire, l'animateur. On parlait des liseuses tout à l'heure. Dans les faits, la liseuse ne remplace pas du tout le livre papier. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. On aura toujours besoin des bibliothécaires pour guider, orienter, accompagner l'usager dans ses pratiques.
Voilà, après, je pense que la mission change un petit peu. On se tourne davantage vers la médiation, je pense.
C'est ça.
On range moins les livres.
En même temps, c'est pas ce qui est le plus passionnant dans le métier.
Non, mais du coup, la médiation, effectivement, s'oriente plus.
On est vraiment dans l'échange et le partage.
Un deuxième petit temps musical.
Ben oui, puisqu'on écoute Panic at the Disco. avec le titre I Hope. C'est Damien qui me fait une petite blague. Je me suis arrêtée net. On vous laisse écouter.
À gauche sur votre écran, l'empereur de la cuisine industrielle, le Napoléon du prêt-à-manger.
Lise Torreverdi. Bonjour, vous êtes cadre de santé à l'EHPAD de Conches et c'était important pour nous aujourd'hui d'avoir un regard, un témoignage sur ce cyber-EHPAD. Qu'est-ce qu'un cyber-EHPAD ?
Alors déjà, merci de m'avoir invitée. Donc moi, je vais vous parler de l'EHPAD de Conches. Pour resituer un petit peu, donc un EHPAD, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Donc qui reçoit des personnes âgées de plus de 60 ans, qui ont une baisse de l'autonomie ou qui fait de leur pathologie ont besoin de soins. Actuellement, on est situé dans le centre-ville de Conches, hein, dans des bâtiments historiques très anciens. Et on est en cours de construction d'un nouveau bâtiment qui va se situer sur la zone industrielle de Conches, près de l'Intermarché, pour ceux qui connaissent, qui sera donc un cyber-EHPAD. Alors, qu'est-ce que c'est que le cyber-EHPAD ? Eh bien, c'est un bâtiment intelligent qui a été conçu et pensé avec des nouvelles technologies. Puisqu'en 2010-2011, lors du projet de reconstruction, la direction s'est dit, après tout, pourquoi pas se tourner vers le numérique et le digital pour pouvoir en faire bénéficier à la fois les résidents et aussi le personnel soignant.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut développer un peu, parce qu'on est très curieux et que voilà, on a parlé beaucoup de volet numérique, mais du coup, la lecture, voilà, au niveau du personnel soignant, au niveau des résidents, ça va se traduire comment ?
c'est quand même un grand changement pour nous, parce que comme je vous ai dit, on part d'un bâtiment vraiment ancien, historique, avec une architecture à l'ancienne. Mm-hmm. Là, on va être vraiment dans la modernité. Donc, on va pouvoir proposer aux résidents dès l'ouverture, déjà des chambres seules, avec par exemple, dans chaque chambre, une télé connectée. Donc, la possibilité pour les résidents d'avoir accès aux chaînes, évidemment, de télévision, la météo, à des newsletters en interne. Donc, ils pourront, par exemple, voir le programme d'animation de la semaine, les menus, tous les événements importants de l'institution. Ils pourront aussi communiquer via d'autres biais avec leur famille, parce qu'on a des résidents qui ont des enfants, des petits-enfants à l'étranger ou qui sont loin. Donc, c'est utiliser une messagerie, utiliser Skype, utiliser d'autres réseaux modernes de communication. Ça, c'est le premier volet, c'est la télévision. On aura aussi des nouvelles technologies dans une unité spécifique, parce qu'on va créer une unité spécifique dédiée aux résidents atteints de la pathologie d'Alzheimer, où là, ils vont pouvoir bénéficier d'une luminothérapie qui va recréer la lumière naturelle et favoriser le cycle du sommeil. Et les portes seront entièrement sécurisées pour permettre l'accès individuel à la chambre du résident. Et aussi, l'entrée sera sécurisée. Donc, chaque résident portera à son poignet un dispositif qui utilise là aussi de la nouvelle technologie. On est vraiment là dans l'idée d'élargir la vie sociale du résident qui est parfois isolé, qui doit rester en chambre. Ça lui offre d'autres possibilités de communiquer. Mais ça aura forcément un impact aussi sur le personnel, parce qu'il faudra accompagner ces résidents à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et on a déjà commencé un partenariat avec l'espace Méliseau, et je pense qu'il y aura beaucoup de travail à faire sur l'accompagnement des résidents dans l'utilisation de ces télés et de ce nouveau canot de communication. Voilà, ça c'était plutôt sur l'aspect résident. Après, sur l'aspect personnel, on aura aussi des nouvelles technologies. Ils auront évidemment un outil informatique à disposition, parce qu'on aura des ordinateurs portables sur des petits chariots à roulettes. Donc, la possibilité de tracer l'information ou d'avoir accès à l'information en temps réel. Il y aura aussi des tablettes murales dans chaque chambre du résident. Vous voulez rentrer une donnée ou accéder à une donnée, vous pouvez le faire. Ça veut dire des données sécurisées, consultables par les professionnels. Donc, on gagne du temps. Mais forcément, ça veut dire travailler autrement. Donc, les soignants, que ça soit être soignante ou infirmière, c'est vrai qu'on est formé à prendre soin. On n'a pas dans nos cursus de formation du tout l'aspect nouvelle technologie. Donc, c'est aussi accompagner les soignants à utiliser ces nouveaux outils. Ça veut dire, oui, les accompagner dans le fonctionnement par le biais de formation-action. Donc, on va être très présent auprès d'eux sur les premiers mois pour leur montrer comment travailler différemment. Et ça, c'est une vraie révolution pour eux.
Donc, il va y avoir un vrai volet de formation, que ce soit pour les résidents comme pour les soignants.
Tout à fait. Alors, je ne dirais pas de la formation classique, c'est vraiment là de la formation-action, se mettre en situation, expliquer, si vous tracez l'information maintenant, vous gagnez du temps, mieux de la tracer en fin de journée. Là, voilà comment on utilise l'outil, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. On sort de la chambre du résident, d'habitude, on lui met des choses à disposition. Là, on pourra lui dire, est-ce que vous voulez écouter votre playlist ? Est-ce que vous voulez que je vous mette le diaporama de photos de vos petits-enfants. C'est vraiment des nouveaux réflexes à avoir pour tout le monde. Et je pense que ça va venir assez progressivement. Voilà.
Oui, c'est vraiment une ouverture sur l'extérieur, en fait. Finalement, c'est à la fois une formation interne et une ouverture vers l'extérieur pour les personnes qui sont effectivement immobilisées. Oui. Voilà. Donc,
tout à l'heure, vous parliez de numérique social et de pédagogie. On retrouve ces thèmes. Ça sera deux thèmes précurseurs chez nous dans les prochains mois dès l'emménagement. Voilà. Comment travailler autrement et c'est toute une pédagogie pour l'expliquer aussi pour que les soignants et les résidents y voient de l'intérêt. Voilà.
Comment les familles et les résidents ont accueilli ce dispositif ? Est-ce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est d'ores et déjà dans les sujets d'actualité, de sujets de conversation. Qu'est-ce que vous entendez sur ce ? Quels sont leurs retours sur cette mise en place ?
Alors, il y a énormément de questionnements, mais qui sont pour l'instant sur des choses très pratico-pratiques, sur l'aménagement des chambres. On a quelques questionnements sur le numérique, mais je pense que ça va être l'objet des premières semaines, c'est de leur montrer justement ce qui est possible de faire. Voilà. Je pense que là, ça reste assez flou pour eux. Voilà. Mmh. Donc, ça sera à nous d'ouvrir les portes de l'EHPAD. On a pensé à faire des journées portes ouvertes sur des thématiques, des cafés, débats, etc. Je pense qu'il va falloir avoir toutes ces discussions-là sur les possibilités pour que les familles se disent « Ah bah tiens, pourquoi pas faire un Skype ? Pourquoi pas ?» Il va falloir les inviter, leur montrer les nouveaux outils pour pouvoir mieux les utiliser, justement. Et aussi lever les craintes en lien avec ces nouvelles technologies-là. Voilà.
Est-ce que ce n'est pas une évolution de toute façon nécessaire du métier et des locaux, étant donné que les futurs seniors seront des gens qui manipulent aujourd'hui le numérique et qui, du coup, ne seront pas complètement détachés passé 65-70 ans?
Oui.
Quand on... Bon, c'est dans longtemps, on se le souhaite. Mais voilà, quand on a aujourd'hui 40 ans et qu'on manipule le numérique avec assez d'aisance, est-ce que, du coup, on ne sera pas complètement coupé? On demandera ce genre de service, du coup, dans 30 ans, quand on sera placé, effectivement, en EHPAD, si on est placé. Mais c'est une évolution qui sera nécessaire dans tous les cas.
Tout à fait. Là, on est précurseurs et des cyber-EHPAD, il y en a très peu. Mais c'est je pense ça, que je dans 10 ans, il y aura énormément de cyber-EHPAD et tout le monde devra s'adapter en ce sens, effectivement. Après, ça ne retire pas... je pense qu'il y a des gens qui sont très attirés par cet aspect nouvelle technologie, puis d'autres gens qui ne les utiliseront jamais. Après, ça reste un libre choix et un plaisir surtout à l'utilisation. Voilà.
Oui, donc au final, ce sera tel que les pratiques aujourd'hui. Il y en a qui utilisent, il y en a qui n'utilisent pas. Et donc, il n'y a pas de raison que ça change une fois en EHPAD. Mais du coup, l'EHPAD permettra de conserver ses centres d'intérêt.
Tout à fait.
Il y a combien de cyber-EHPAD, du coup,
vous savez ? Je crois que sur l'appellation cyber-EHPAD, c'est le seul.
D'accord.
Oui. Après, je ne vous ai pas parlé du Living Lab. Alors ça, c'est un petit peu la particularité aussi du cyber-EHPAD. On va avoir dans nos locaux une chambre qui recrée parfaitement une chambre classique d'EHPAD qui sera située au rez-de-jardin, donc à distance des chambres des résidents, et qui sera une chambre laboratoire de recherche. Donc, elle sera équipée d'un lit, d'une douche, d'une salle de bain, etc. Et elle sera accolée à un bureau avec de l'informatique. Cette chambre, elle est là, en fait, pour servir de laboratoire de créativité et d'innovation et du développement des nouvelles technologies, ce qui va permettre à des start-up, des entreprises qui veulent développer des produits en lien avec la silver economy et la personne âgée, de venir au sein de l'EHPAD, de tester ces dispositifs. Alors, l'avantage pour nous, c'est d'être au cœur du développement des nouvelles technologies, au cœur de la recherche, clairement, de pouvoir essayer aussi, pourquoi pas, avec l'accord des résidents, de leur famille et du personnel, ces nouvelles technologies. Donc ça, c'est vraiment aussi une particularité et on a vraiment hâte d'accueillir des start-up prochainement.
Donc, il y a tout un marché qui s'ouvre, on n'imaginait pas, enfin, en tous les cas, pour ma part, mais qui s'ouvre, effectivement. On peut imaginer, effectivement, des jeux ou ou des musiques ou des choses comme ça qui peuvent venir être testées à destination de gens hospitalisés.
Oui.
D'accord.
Et justement, on a beaucoup parlé de jeux avec les médiathèques et avec l'espace numérique de Mélisso. Mais on sait que le jeu, du coup, permet de travailler la coordination, la motricité. On sait également que ça... prévenir ou ralentir certains effets d'Alzheimer. Est-ce que c'est prévu, par exemple, au cyber-EHPAD d'avoir de temps en temps, en tout cas, un peu de jeux vidéo?
Alors, sur les jeux vidéo, il y a eu un essai avec la Wii, justement, il y a quelques temps. Mais après, ça posait des problèmes en termes de risque de chute.
D'accord.
Voilà, parce que c'est vrai que les résidents âgés qui l'utilisaient étaient tellement dans le jeu qu'ils en perdaient la notion d'équilibre parfois. Donc, c'est là où il faut faire attention aussi à la sécurisation de ces personnes. Après, je ne sais pas si vous connaissez le casque virtuel qui est très utilisé en pédiatrie, en période pré-bloc, intervention, etc. Ce genre de choses, on peut l'imaginer à la fois pour stimuler la personne et aussi pour la sortir de son environnement chez les résidents anxieux notamment, pour travailler sur la gestion du stress. Ça marche très bien. Voilà, donc c'est des choses qu'on aimerait bien pouvoir effectivement développer. On a aussi pensé aux robots. Il y a des robots animaux. Je ne sais pas si vous connaissez le phoque paro. Il y en a un autre qui fait faire de la gymnastique douce aussi aux résidents. Il y a vraiment l'aspect ludique, curiosité de ce petit robot. Donc oui, effectivement, on pense investir aussi sur toutes ces nouvelles choses. Voilà.
D'accord. Ah oui, donc effectivement, ça revêt des...
des domaines qu'on n'aurait absolument pas imaginé, quoi.
Du tout. Qui paraissent cohérents, hein. Ça paraît effectivement évident, mais qu'on n'imagine pas, quoi.
Qu'en pensez-vous, du coup, Richard, Anne-Sophie, vous qui travaillez avec le numérique au quotidien, mais durant dans des organismes complètement différents?
Je sais que, Richard, j'ai entendu parler d'un web journal, d'une action intergénérationnelle, justement, entre des jeunes et qui pourraient faire un petit journal au sein de l'EHPAD. Ça permet aussi, on rejoint cet outil qui permet de faire du lien entre deux générations. Peut-être nous en dire un mot.
C'est vrai que c'est une action, là on est sur la troisième année de cette action, donc la première année on a simplement voulu créer le lien entre les ados et les résidents. Donc là on est plus parti sur du jeu de société traditionnel pour qu'ils puissent faire connaissance, etc. Et la seconde année, l'idée c'était de repartir sur ces mêmes jeux mais sur des tablettes. Et donc, alors au niveau du lien, c'est plutôt bien passé. Bon, après, c'est vrai que les tablettes, alors comme quoi, des fois, on pensait que le côté tactile, ça allait être facilitateur. Et en fait, avec les résidents, pas du tout. C'est pas quelque chose de naturel pour eux. Donc, finalement, ça a plutôt été une difficulté pour eux. C'est pour ça que là, on est reparti encore, comme un petit peu je disais tout à l'heure, on est parti sur du numérique en tant qu'outil. Et pas du numérique pour du numérique. Donc là, l'idée, c'est de créer un journal papier traditionnel, mais en utilisant cette fois-ci un ordinateur pour créer le journal. Sachant que dans les résidences, généralement, la plupart ont quand même connu ce que c'était qu'une machine à écrire. Et c'est vrai que sur un ordinateur, le clavier, c'est ni plus ni moins que ce qu'on avait auparavant sur les machines à écrire. Donc l'idée, c'est de leur faciliter aussi un petit peu la transition. Là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur la première année, on avait peut-être été un peu vite. Et du coup, on a adapté le projet pour aussi que ça reste un plaisir pour les résidents.
Oui, et puis c'est vrai qu'il faut adapter même le matériel, parce que je crois que les tablettes, dans tous les cas, pour les personnes âgées, c'est compliqué. Parce qu'effectivement, l'avancée en âge étant là...
Il y a la dextérité.
La dextérité.
Oui. Le côté tactile. Ça peut
être problématique.
La sensibilité et autres. Oui. Donc, les outils à utiliser sont vraiment adaptés en fonction des publics. Alors, pour les jeunes, oui, ça ne posera aucun problème. Mais pour les personnes âgées, oui, c'est plus compliqué.
Oui, tout à fait.
Il faut y penser. Bon, merci à tous.
On se refait une petite pause.
Oui, une petite pause musicale. Adèle.
He's getting into it. Brace your head. I think he hurt Joe Frazier. I think Joe is hurt.
c'était K.O. Electro Deluxe. On continue.
Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels.
Oui.
Macarons foudroyants.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon.
Oh, le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
L'inratable de la médiathèque, qu'est-ce qu'elle nous a concocté, Leslie, cette semaine ? Nous étions dans le numérique, vous êtes bien sur Tambouille, et c'est le petit moment de découverte de Leslie. Qu'est-ce que tu as mis dans ton panier ?
Ah non, ce n'est pas mon panier, mais effectivement, on est tout sauf sur le numérique, on est sur un livre qui doit exister, qui existe très certainement en version numérique, il n'y a pas de problème là-dessus, si vous voulez lire sur liseuse, vous pouvez toujours aller le voir. Moi, je voulais revenir sur un livre qui est sorti il y a 2 ans, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Chanson douce » de Leïla Slimani. Alors, la thématique n'est pas
joyeuse,
hyper joyeuse, puisqu'en fait, on commence, on est directement dans le bain. Moi, je l'ai beaucoup aimé comme livre. C'est pas la lecture la plus joyeuse qui puisse exister, mais il est extrêmement bien écrit. Et c'est pas pour rien que maintenant, Leïla Slimani est effectivement une auteure suivie et reconnue, du coup. On commence directement avec le meurtre, enfin le... C'est même difficile à dire. Oui, je vois les invités qui, du coup, font une drôle de tête.
Oui, puis ça glace. Hein.
En fait, voilà, c'est un roman qui est vraiment glaçant et ça revient sur un fait divers qui a existé aux États-Unis il y a quelques années. Et donc, on est sur une nounou qui cherche à tuer les 2 petits enfants qu'elle garde. Alors, ça fait très longtemps que je l'ai lu.
Oh, c'est un peu plus frais chez moi.
C'est un peu plus frais chez
toi. Ouais, oui, c'est plus frais chez moi.
Oui, parce que du coup, tous mes coups de cœur lecture, je les refile à Adèle.
Ouais, c'est comme ça, je teste. Mais je ne suis jamais déçue, c'est bien.
Donc voilà, on commence sur cette histoire et après on revient sur le pourquoi du comment, sur la recherche d'une nounou, parce que les parents ont recherché une nounou, ils ont cherché à en avoir une très bien. Et effectivement, elle s'est vraiment impliquée, voire même immiscée dans la vie de ce couple avec ses enfants. Et en fait, je voulais revenir dessus déjà parce que c'est un vrai coup de cœur en termes de littérature. C'est pas pour rien qu'il a eu le Goncourt en 2016. Et également parce que du coup, il est adapté au théâtre. Ça va sortir cette année. Et vous allez également le voir au cinéma. Donc, vous allez entendre parler de ce livre assez souvent, là, en ce début d'année, en ce premier semestre 2019. Donc, il est au théâtre à la Comédie Française et il sera au cinéma deuxième semestre. Il sera à la fin de l'année 2019, en mois de novembre. Donc, si jamais vous voulez une idée de lecture, n'hésitez pas. Chanson douce de Leïla Slimani. Moi, j'attends de le voir au théâtre et au cinéma pour prolonger un petit peu le coup de cœur.
C'est vrai. C'est toujours intéressant, en plus, de voir à partir d'un livre comment ça peut être adapté au cinéma ou au théâtre. Moi, je suis curieuse plus sur le théâtre parce qu'effectivement, le sujet est quand même très particulier. Et on a du mal à passer la frontière entre l'imaginaire et le réel, puisque là, effectivement, c'est le principe du vivant, mais qui peut être dérangeant sur le théâtre. Après, c'est toujours aussi intéressant au cinéma de voir comment on adapte un livre, puisque l'imaginaire de chacun rentre en ligne de compte.
Je suis en train de me dire que ça pourrait presque faire l'objet d'une prochaine émission. Les adaptations.
Ah, les adaptations. Ah bah oui, pourquoi pas. Oh, on en fait une cette année quand même.
Ah oui,
je te rappelle. Ah oui, cette année, on a joué le jeu.
Mais bon, ça, on vous en reparlera.
Oui, parce que c'est un événement à part entière.
Voilà. Du coup, je pense qu'on va continuer avec le panier. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans le panier du mois.
Non, on continue. On remet dans notre panier. Alors, dans notre panier, cette fois-ci, nous avons une pièce de théâtre, Nos éducations sentimentales, qui va se jouer à Conches dimanche à 16h. C'est librement inspiré de Flaubert et puis de Truffaut. C'est une belle tranche de vie de quarantenaire, d'étudiant jusqu'au quarantenaire, sur la rencontre amoureuse, les débuts, les échecs, la recherche, en tous les cas, toujours de l'amour. Donc, je vous invite vraiment à venir voir ce spectacle. C'est une compagnie normande. C'est mis en scène par Sophie Le Carpentier, qui a eu, avec qui j'ai eu la chance de voir la création, puisqu'elle s'est faite à la salle de spectacle.
Donc, n'hésitez pas, il reste encore quelques places. C'est dimanche, le 3 février, dans l'après-midi.
Voilà, vu le temps qu'il fait, on est bien mieux dans une salle de spectacle.
Exactement.
Ensuite, on va revenir un petit peu, Anne-Sophie, peut-être sur la semaine du numérique, sur des petits temps forts, les inratables, où il faut qu'on se mobilise.
Alors, dans les inratables, on a la boîte à outils numérique la boîte à outils numérique, qui est un conteneur mobile contenant des postes de découverte d'outils numériques, type une imprimante 3D, un casque de réalité virtuelle, un poste sur la réalité augmentée, voilà. Plein de choses. Et donc, cette boîte à outils numériques sera présente à Ménil-en-Ouche, là, en ce premier week-end de février, donc le 1er et le 2 février, et ensuite à Saint-André-de-l'Eure, le 8 et 9, pour clôturer notre manifestation. Dans les grands événements, moi, que j'aime bien mettre en avant, donc on a l'appli Hour que j'aime beaucoup.
En fait, Anne-Sophie a craqué sur le nom.
Ah, j'adore.
Moi, j'ai bien aimé le Repair aussi, le Repair Café. Ouais, je trouve ça aussi sympa.
Ouais. Ouais, ouais. Alors Repair Café, on en aura un à Charleval, donc le 1er février, vendredi après-midi. Un autre à Conches, un autre qui aura lieu à Louviers. Voilà, donc Happy Hour, c'est mercredi à la médiathèque de Conches, concocté par Leslie. Voilà, autre chose, donc les jeux de société en vidéo projection à Gaillon, ce vendredi également. On a aussi quelque chose que j'aime bien. Alors, je ne sais pas encore trop ce que ça va être, mais j'ai hâte d'y aller. C'est l'atelier cuisine numérique à la médiathèque de Gaillon, mercredi 6 février à 15h. Alors moi, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il va y avoir une application sur tablette, voilà, avec plein de recettes, je pense. Je pense que ça va être chouette. Également aussi le 5 o'clock free à Gisors, la médiathèque de Gisors, pour découvrir les logiciels libres. Voilà, donc le mercredi 6 également. Il y aura beaucoup de choses le mercredi, effectivement, en médiathèque.
Le mercredi et le samedi, voilà.
Voilà, ce sont les dates clés.
Leslie, on va peut-être revenir parce qu'on a un tournoi.
Voilà, ouais, j'allais en fait, venir.
Voilà, moi je vais
pour
revenir.
Pour clôturer vraiment l'événement, on a le tournoi de jeux vidéo qui se terminera à la médiathèque de Conches. Mais du coup, je vous laisse parler un petit peu.
Moi, je vais revenir plus particulièrement, effectivement, sur le programme de la médiathèque. Puisque, donc tu l'as dit Anne-Sophie, vous l'avez dit Anne-Sophie, voilà, ça m'a échappé. On a un Repair Café qui commence le vendredi 1er février après-midi. Donc on en a discuté un petit peu tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous avez un appareil de buggé ou une application installée ou un conseil d'utilisation, passez, il y aura quelqu'un pour vous aider. On continue également le samedi 2 février, puisque le matin, à partir de 10h30, il y aura une découverte de la médiathèque numérique. Donc, ce qui vous permettra de découvrir l'outil, de voir si ça peut vous intéresser. Et puis, si cela est le cas, on vous fera un compte. On continue l'après-midi avec la première phase pour nous du tournoi Mario Kart, puisque du coup, ce sera la phase de poule, ce sera la phase de qualification. Donc, si vous voulez participer à ce tournoi départemental, la première étape à Conches, c'est le samedi 2 février à partir de 14h. La compétition commencera à 14h30, ça vous laissera le temps de vous échauffer un petit peu. Et ça vous permettra de vous qualifier pour la finale qui aura lieu effectivement une semaine plus tard, le samedi 9 février, même heure, 14h, 17h à peu près.
Et là, ça sera sur grand écran, la salle de spectacle.
Ouais, la salle de spectacle, du coup, sera mise à notre disposition pour que tout le monde puisse profiter d'une expérience de jeu formidable. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être vendeuse de jeux vidéo. Donc, n'hésitez pas. Il faut juste vous bloquer les deux après-midi, du samedi 2 et du samedi 9 février. Mais comme tu le disais, Adèle, de toute façon, le temps n'est pas à la sortie extérieure. Donc, venez chez nous, il n'y a pas de problème.
Ça sera un jour à jouer aux jeux vidéo pour affronter les joueurs, les meilleurs pilotes des médiathèques de Charleval, du Pays Brionnais, mais donc de Conches et aussi donc des Trépanny.
Moi, personnellement, je me suis hyper entraînée. Quoi. Je suis...
Ah oui, alors moi, pas du tout. Hein.
Je pas suis du tout. Mais Anne-Sophie m'a déjà dit, tu n'as
les
pas le droit
de jouer. Les organisateurs ne peuvent pas jouer.
Voilà. On sera spectateurs, c'est bien aussi.
Voilà.
Richard, je crois qu'il se passe des choses aux vacances de février, Mélisso. J'ai moi vu passer quelque chose à un YouTuber.
Oui, dans le cadre donc, de l'espace public numérique, sur les deux semaines de vacances, on va proposer aux jeunes de s'initier un petit peu à YouTube. Donc, c'est au travers d'ateliers vidéo dans un premier temps. Donc sur la première semaine, ça va plus être atelier vidéo, montage, comment faire des captures d'écran aussi. C'est vrai que les jeunes, ils sont beaucoup sur le gaming, donc ils ont envie de faire des vidéos un peu de quand ils jouent et de commenter un peu leur façon de jouer. Et en fait, la deuxième semaine, on va plus aborder l'aspect vraiment YouTube et direct en fait sur YouTube, donc pour faire des lives comme ils appellent assez régulièrement par eux-mêmes. Donc c'est voir un peu tous les petits outils autour de YouTube. Donc on a une chaîne hein, YouTube qui est dédiée à la jeunesse sur laquelle on met l'ensemble des vidéos qui vont être produites lors de ces deux semaines, mais aussi les vidéos qui ont été créées en amont. Je parlais tout à l'heure du Festival du film d'éducation. Vous pourrez y retrouver les petits courts-métrages des jeunes aussi. C'est une chaîne qui s'appelle Espace Mélisseau Jeunesse sur YouTube.
D'accord, ok, très bien. Alors j'ai coupé l'accès à Leslie qui n'avait pas fini.
Je vais juste finir le programme.
Qu'est-ce que tu as encore dans ton panier ?
C'est juste le mercredi 6 février. On disait du coup que le mercredi était, et le samedi en bibliothèque était chargé, mais le mercredi 6, effectivement, c'est chargé. L'après-midi, on proposera aux jeunes âgés de 8 à 14 ans une découverte un petit peu de la réalisation de films en stop motion. Donc ce sont des films image par image. Et on a du coup le fameux Apple Hour qui aura lieu à 16h. C'est une trentaine de minutes à peine pour découvrir des applications qui sont utiles, éducatives, variées. Donc voilà, c'est pour les jeunes âgés de 5 à 10 ans. Si les parents veulent les accompagner, il n'y a pas de souci.
Eh ben merci à tous d'avoir répondu présent. J'espère qu'on a fait un petit tour d'horizon en tous les cas du numérique dans notre quotidien. C'était Tambouille et on se retrouve le mois prochain.
N'hésitez pas, du coup, le mois de février, entre Expo et les vacances avec l'espace numérique de Mélisseau, très numérique. Prenez rendez-vous.
Le vivre ensemble, pour moi, est un peu plus beau, fort, que deux, trois mesures dites de discipline ou de règlement intérieur. Et le vivre ensemble, ça passe aussi, et peut-être même surtout, par la culture. La plus belle arme qui soit pour lutter contre le sentiment que l'autre n'est pas pareil que moi. Je ne te comprends pas, donc je ne t'aime pas. Alors que la culture, c'est je ne te comprends pas, donc je vais m'installer et je vais t'écouter. Parce que ça m'intéresse. C'est ça la culture.
Sometimes an extremely dangerous practice.